Chapitre 54. Le message. Alors que le soleil apparaissait à peine à l'horizon, le second jour de la fête des Lumières commença tambour battant, les rues déjà pleines de candidats à la débauche. À dire vrai, elle ne s'était jamais vraiment vidée pendant la nuit. Les célébrations ayant atteint un pic de frénésie, très peu de gens prêtèrent attention à l'homme à la courte barbe bouclée et à l'air sinistre, une hache glissée à sa ceinture, qui chevauchait lentement vers la rivière. Quelques fêtards s'intéressèrent cependant à ses compagnons. À l'un d'eux, surtout. Si les aïels n'étaient plus une curiosité en ville, même s'ils avaient déserté les rues depuis le début des festivités, ce n'était pas tous les jours qu'on voyait un augier. Plus grand que l'homme à cheval, cet augier-là portait par ailleurs une hache sur l'épaule, le manche de l'arme presque aussi long que son propriétaire était grand. Comparé à ce géant, le cavalier aurait presque pu passer pour un joyeux de rille. Sur la rivière Alghenia, tous les bateaux avaient allumé la totalité de leurs lanternes. Même ceux du peuple de la mer, sujet de tellement de rumeurs. Alors que leur présence à Caerienne était déjà étonnante, ils étaient à l'ancre depuis déjà pas mal de temps, et sans avoir jamais pris contact avec la terre. D'après ce que Perrine avait entendu dire, les Ataan Miere désapprouvaient les débordements qui avaient lieu en ville. On pouvait supposer qu'ils réagissaient comme les aïels, eux aussi outrés par ce spectacle. En voyant des hommes et des femmes s'embrasser à tous les coins de rue, Gaol avait failli faire une crise cardiaque. En revanche, que ces dames portent un chemisier ou non ne lui faisait ni chaud ni froid. C'était la licence généralisée qui le gênait, pas l'impudeur. D'autres auraient appelé ça l'indécence, probablement. Entre les hauts murs qui les flanquaient, de longs quais de pierre faisaient saillie dans la rivière. Des bateaux de toutes les tailles y étaient amarrés, y compris des bacs capables, selon les cas, de transporter un cheval ou 50. Mais Perrine ne vit pas trace d'équipage sur ces embarcations. Avisant un bac de quelques 30 pieds de long arrimé à plusieurs bits de pierre, il s'en approcha et tira sur les rênes de son cheval. La rampe d'accès au quai était en place, et un type aux cheveux gris, torse nu, trônait sur une barrique retournée, au milieu du pont, une femme tout aussi grisonnante que lui perchée sur ses genoux. Sur le devant de la robe de cette dame, une demi-douzaine de rayures de couleur signalaient son rang.
« Nous voulons traverser !»
dit Perrine, avant de regarder le couple du coin de l'œil, pour voir s'il allait consentir à se désenlacer. Autant espérer qu'il neige en été. Agacée, Perrine jeta sur le pont une couronne d'or andorienne, et le bruit de la pièce rebondissant sur le bois incita les fêtards à tourner la tête.
« Nous voulons traverser !»
répéta le jeune homme, en faisant sauter dans sa paume une deuxième couronne d'or. Après un moment, il en ajouta une troisième. Le propriétaire du bac passa sur ses lèvres une langue vorace.
« Il va falloir que je trouve des rameurs !»
dit-il en fixant la main de Perrine. Non sans soupirer, le jeune homme ajouta deux pièces dans sa paume. À une époque, se souvint-il, voir une seule couronne d'or aurait incité ses yeux à sortir de leurs orbites. Sans ménagement, le propriétaire du bac se leva, laissant sa conquête tomber lourdement sur le sol, puis gravit la rampe d'accès en assurant qu'il serait de retour très vite. La noble dame foudroya Perrine du regard, monta elle aussi sur le quai, et s'éloigna d'une démarche très digne, un effet un peu gâché par la façon dont elle se massait le postérieur. Mais après quelques pas, elle releva l'ourlet de sa jupe et partit comme une flèche rejoindre un groupe de danseurs qui gambadaient au bord de l'eau en riant. Très vite était sans doute une façon de parler. Appâté par l'or, le propriétaire du bac revint cependant dans un délai raisonnable, avec le nombre requis de rameurs. Debout près de son cheval bai, Perrine lui flatta les naseaux, tandis que le bac s'engageait dans la traversée. À cet instant, il n'avait pas encore décidé d'un nom pour sa monture, qui venait des écuries du palais. Bien chaussé, les antérieurs blancs, l'animal semblait du genre endurant, même s'il n'arrivait sûrement pas au boulet de trotteur. L'arc de Perrine, débandé, était glissé sous la sangle de sa selle, et son carquois était suspendu au haut trousquin, en face d'un paquet long et étroit, l'épée de Rande. Après avoir fermé le paquet elle-même, Faye l'avait tendu à son mari, sans dire un mot. Comprenant qu'il n'aurait pas droit à un baiser, Perrine s'était détournée. Et là, Faye avait murmuré quelques mots.
« Si tu tombes, je ramasserai ton épée. »
Voulait-elle qu'il l'entende ou non? Perrine n'aurait su le dire. Et dans la cacophonie de senteurs qui montait d'elle, il n'avait rien trouvé pour l'aider à résoudre l'énigme. Pour l'heure, il aurait dû se concentrer sur ce qu'il faisait. Mais pas moyen d'empêcher Fail d'occuper ses pensées. À un moment, il aurait juré qu'elle était sur le point d'annoncer qu'elle l'accompagnerait. Le cœur serré, Perrine avait compris qu'il n'aurait pas le courage de refuser si elle prenait cette décision. Pas après tout le chagrin qu'il lui avait infligé. Mais Sisa et Seda les attendaient au bout du chemin, promesses de sang et de mort. Si Fail succombait, le jeune homme savait qu'il en perdrait la raison. L'affaire s'était produite au moment où Berylaine avait proposé de prendre elle-même la tête de ses gardes ailés durant cette poursuite. Par bonheur, cette éventualité n'était pas restée longtemps d'actualité, mais les choses s'étaient passées bizarrement.
« Si tu quittes la ville que Randaltor t'a chargé de diriger en son nom, »
avait dit Rouark,
« quelles rumeurs en résulteront? Et si tu envoies tous tes hommes? Au bout du compte, quelles catastrophes provoqueront ces rumeurs ?»
Formellement, il s'agissait de conseils. Pourtant, c'était bien plus que ça. Quelque chose dans le ton du chef de tribu ne laissait pas de doute à ce sujet. Berylaine avait d'abord défié Rouark du regard, le menton pointé. Puis toute détermination avait disparu de son odeur, et elle avait marmonné.
« Parfois, je me dis qu'il y a trop d'hommes qui peuvent me faire plier. »
Seule Perrine avait dû entendre cette première phrase. La deuxième avait été prononcée d'un ton assuré.
« Un très bon conseil, Rouark. Je crois que je vais le suivre. »
Le plus étonnant dans tout ça avait été la manière dont l'odeur de Rouark et celle de Berylaine s'étaient harmonisées. Perrine avait immédiatement pensé à un loup face à un louveteau femelle presque adulte, un père indulgent adoré par sa fille et qui l'adorait, même s'il devait parfois lui mordiller le museau pour lui apprendre à se comporter convenablement. Quoi qu'il en soit, Perrine avait vu fondre dans le regard de Fail la volonté de l'accompagner. S'il revenait de cette mission, que devrait-il faire pour arranger les choses? Au début, les rameurs, souvent torse nu et toujours vêtus assez grossièrement, lancèrent quelques plaisanteries pas vraiment subtiles mais dépourvues d'hostilité sur les délices qu'il manquait et qu'un peu d'or ne parviendrait jamais à compenser. Alors qu'il multipliait les allers et retours sur le pont pour manipuler les grandes rames, les rires fusaient, tandis que chacun à son tour, il se vantait d'avoir dansé avec une dame de la noblesse, voire de lui avoir volé un baiser. Un type mince au menton pointu affirma même qu'il avait une noble de Théar sur les genoux au moment où Manal, son patron, était venu le déranger. Mais personne ne le crut. Et Perrine ne fit pas exception à la règle. Les hommes de Théar, après avoir vu en quoi consistaient les festivités, s'étaient jetés dans la mêlée avec enthousiasme. Les Théariennes, bien au contraire, s'étaient enfermées dans leur chambre avec des gardes devant la porte. L'ambiance joyeuse ne dura pas longtemps. Réfugié au centre du bac, ses yeux étrangement brillants rivés sur le rivage d'en face, Gaol ressemblait à un félin prêt à bondir. C'était à cause de toute cette eau, bien entendu. Mais les rameurs ne pouvaient pas le savoir. Appuyé au long manche de sa hache, une arme qu'il avait dénichée dans le palais, le tranchant, semblable à celui d'une hache de bûcheron géante, était orné de magnifiques gravures, Loyal se tenait immobile comme une statue, son grand visage semblant pour de bon sculpté dans du granit ou du marbre. Impressionnés par leurs passagers, les rameurs se turent et s'efforcèrent d'écourter autant que possible la traversée. Quand le bac eut atteint un quai de pierre, sur la rive ouest de la rivière, Perrine remit au propriétaire la somme promise, même si c'était un peu tard pour y penser, il espéra que c'était bien le propriétaire, et quelques pièces d'argent à distribuer aux hommes, histoire de les amadouer après que Gaul et Loyal eurent gâché leur bonne humeur. Manal recula dès qu'il eut pris son dû, et s'inclina si profondément que sa tête, malgré sa bedaine proéminente, faillit toucher ses genoux. Au fond, Gaul et Loyal n'étaient peut-être pas les seuls à flanquer la trouille aux gens. Sur la rive, de grands bâtiments sans fenêtres, leurs murs noircis et troués par endroits, étaient entourés d'échafaudages de bois. Lors des émeutes, quelque temps plus tôt, on avait incendié les entrepôts de grains, et les réparations venaient d'entrer dans la phase active. Mais pour l'heure, il n'y avait pas âme qui vive dans les rues flanquées d'entrepôts, d'écuries et de grandes remises pour chariots. Soudain, deux hommes jaillirent d'une ruelle latérale.
« Seigneur Aibara, nous sommes prêts !»
s'écria Avienne Nourel. Le jeune homme aux joues roses, bien plus grand que son compagnon, resplendissait dans sa cuirasse peinte en rouge, son casque de la même couleur orné d'une unique plume écarlate. Il allait jusqu'à exhaler l'odeur de la jeunesse et de l'enthousiasme.
« Je commençais à croire que vous ne viendriez jamais, »
marmonna Dobrein. Tête nue, il portait des gantelets renforcés d'acier et une cuirasse cabossée où on distinguait encore, de ci de là, les vestiges de fières dorures. Regardant Perrine, il ajouta
« Au nom de la lumière, je dis cela sans une once d'insolence, seigneur Aybara.
Nous avons un long chemin à faire, »
dit Perrine. Il orienta sa monture dans la bonne direction. Mais comment baptiser ce cheval ? Marcheur ? Et que faire avec Feil ? L'appel de Rand, impérieux, brûlait en lui à chaque instant.
« Les Aes Sedai ont 4 jours d'avance sur nous. »
Talonnant marcheur, Perrine se lança dans une longue poursuite, durant laquelle crever les chevaux ne servirait à rien. Bien entendu, ni Gaul ni Loyal n'eurent de difficulté à suivre le rythme. Plus large que les autres, une rue de la ville devint soudain la route de Tarvalonne. Une des routes de Tarvalonne, en fait, car il y en avait une Kyrielle. Après un quart de lieue sur cette piste qui serpentait vers le nord-ouest à travers des collines boisées plus basses que celles où se dressait la ville, les voyageurs furent rejoints par 200 gardes ailés de Mayenne et 500 soldats de la maison Taborwin, tous montés sur les meilleurs chevaux qu'on avait pu trouver. Tous les hommes de Mayenne portaient une cuirasse rouge et un casque ailé de la même couleur, qui évoquait irrésistiblement une sorte de peau munie d'un large bord qui leur couvrait la nuque. Brandissant leurs lances ornées de serpentins rouges, presque tous semblaient aussi enthousiastes que Nourel. Les Kérianiens, en moyenne plus petits, se contentaient d'une cuirasse des plus ordinaires et d'un casque en forme de cloche évidé sur le devant, le tout très souvent constellé de traces de coups. Si leurs lances n'étaient pas ornées, le fanion bleu rehaussé de 2 diamants blancs de Dobrein, placé dans leur dos, identifiait les officiers et les nobles mineurs de la maison Taborwin. Point d'enthousiasme chez les Kérianiens, tous des combattants aguerris. Comme on le disait chez eux, ils avaient vu le loup en face. Et ils n'étaient pas pressés de recommencer. Perrine eut envie de sourire. L'heure des loups n'avait pas encore sonné. Vers midi, un petit groupe d'aguels jaillit des bois et dévala la pente en direction de la route. 2 promises avançaient d'un pas décidé aux côtés de Rouark. Perrine reconnut Nandera, puis, non sans hésitation, la servante Souline. En cas d'insort, avec les cheveux courts, à l'exception d'une queue de cheval, l'aïelle semblait très différente. Naturelle, en somme, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle portait une livrée. Le châle drapé sur les bras, leurs colliers et leurs bracelets d'or et d'ivoire cliquetant comme une fanfare, Amis et Soriléa suivaient le mouvement sans se laisser distancer, même s'il leur fallait pour ça relever l'ourlet de leur jupe. Perrine sauta à terre pour marcher en compagnie des aïelles, en tête de la colonne.
« Combien ?»
se contenta-t-il de dire. Rouark jeta un coup d'œil derrière lui. Trop loin pour que Perrine lui-même puisse entendre ce qu'il disait, surtout avec le vacarme des chevaux, le crissement des harnais et le grincement des selles pour tout couvrir, Gaol et Loyal avançaient avec Dobrein et Nourel. Malgré tout, le chef aïel adopta un ton de messe basse.
« 5 000 hommes, venus de différents ordres de guerriers, un peu plus de 5 000 même. Je n'ai pas pu faire mieux. Quand il a compris que je n'irais pas avec lui attaquer les Shaido, Timolan s'est montré beaucoup trop soupçonneux. Si tout le monde finit par savoir que les Aes Sedai tiennent le Karakarn, la sidération risque de faire des ravages. »
Nandera et Souline se raclèrent bruyamment la gorge à l'unisson. Puis elles se défièrent du regard et Souline, les joues rouges, finit par détourner la tête. Exhalant une forte odeur d'agacement, Rouark leur accorda à peine un coup d'œil et marmonna.
J'ai aussi 1 000 000 de promises de la lance. Si je n'avais pas sévi, je les aurais toutes à mes basques, brandissant un flambeau pour annoncer au monde entier que Randall Thor est en danger.
Rouark se rembrunit.
Toute promise que je surprendrai à nous suivre pourra vérifier que je pensais ce que j'ai dit.
Souline et Nandera s'empourprèrent toutes les deux. Sur des visages tannés par le soleil, l'effet était assez saisissant.
Commencèrent-elles
avec un bel ensemble. Il y eut un nouvel échange de regards, et Souline rompit encore une fois le contact, les joues carrément écarlates. Les 2 seules promises que Perrine connaissait bien, Bane et Shiad, ne passaient pas leur temps à rougir comme ça.
« J'ai juré, »
dit Nandera.
et toutes les promises ont prêté serment sur l'honneur. Il en sera fait comme le chef Rouark l'a ordonné. »
Perrine s'abstint de questionner Rouark sur la sidération. Pareillement, il ne lui demanda pas comment il avait fait traverser la rivière à ses aïeuls, sans bague disponible, alors qu'une étendue d'eau était la seule chose au monde susceptible de les forcer à s'arrêter. Les réponses auraient été intéressantes, mais ce n'était pas le moment. 6 000 aïeuls, 500 soldats de Dobrein et 200 gardes ailés. Tout ça contre 6 Aes Sedai, leurs champions et quelques 500 hommes. C'était gagnable, mais les sœurs tenaient rande. Si elle lui plaquait une lame sur la gorge, qui oserait bouger le petit doigt ?
« Il y a aussi 94 matriarches, »
dit Amys,
« les plus puissantes que nous avons pu trouver dans le camp. »
La deuxième phrase semble avoir été dure à sortir. À l'évidence, les matriarches n'aimaient guère reconnaître leur aptitude à canaliser le pouvoir.
« Nous n'en aurions pas à mener tant, »
continua Amys d'un ton plus assuré.
« Mais elles voulaient toutes venir. »
Soriléa se racla la gorge, et cette fois, ce fut Amys qui rougit. Perrine nota mentalement d'interroger Gaul. De loin, les Aiel étaient le peuple le plus étrange dont il eut entendu parler. Peut-être se mettait-il à rougir avec l'âge.
« Soriléa est notre chef, »
conclut Amys. La vieille matriarche eut une sorte de ricanement satisfait. Son odeur confirmait qu'elle jubilait. Perrine se retint de justesse de secouer la tête. Ce qu'il savait du pouvoir aurait tenu dans un dé à coudre, en laissant encore assez de place pour un gros pouce. Mais il avait voyagé avec Moiraine, vu ce que Vérine et Alana pouvaient faire, et vu également la flamme produite par Soriléa. Si elle comptait parmi les matriarches les plus puissantes, il craignait fort que 6 Aes Sedai ne fassent qu'une bouchée de ses 94 aïeuls. Mais à ce stade de l'opération, il n'aurait pas refusé l'aide d'une bande de mulots.
« Les sœurs doivent avoir une trentaine de lieues d'avance sur nous, »
dit-il.
« Peut-être 40. » Si elles font avancer leur chariot à un train d'enfer, nous allons devoir progresser vite. »
Alors que Perrine remontait en selle, les aguels repartirent vers la forêt. Voyant que le jeune homme levait la main, Dobrein fit signe aux cavaliers d'avancer. Pas un instant, Perrine ne se demanda pourquoi des hommes et des femmes assez vieux pour être son père ou sa mère, et des gens de pouvoir par-dessus le marché, lui obéissaient ainsi. En revanche, et non sans inquiétude, il se demanda à quelle vitesse pourrait avancer la colonne. Les aïels, en cas d'insort, n'auraient aucun mal à suivre les chevaux, il le savait. Mais les matriarches en jupe, certaines étant presque aussi vieilles que Soriléa, eh bien, jupe ou non, cheveux blancs ou pas, les matriarches parvinrent à ne pas se laisser distancer, tout en bavardant presque tranquillement entre elles. Personne ne voyageant quelques jours avant et pendant la fête des Lumières, à moins d'une urgence absolue, la route sinueuse se révéla parfaitement dégagée. Après une longue traversée de collines plus basses que les premières, quand la colonne s'arrêta pour la nuit, Perrine estima qu'elle avait parcouru environ 14 lieues. Un beau record pour une expédition si importante. Probablement le double de ce que les Aes Sedai pouvaient faire, sans tuer à la tâche les attelages de leurs chariots. Désormais sûre de rattraper les sœurs avant qu'elles arrivent à Tarvalon, Perrine commença à réfléchir à la manière de procéder, une fois la jonction faite. Couchée sur ses couvertures, sa selle en guise d'oreiller, Perrine adressa un petit sourire à la lune, qui en était à son premier quartier. S'il y avait eu ne serait-ce que quelques nuages, la nuit aurait été d'encre. Des conditions idéales pour chasser. Le genre de terrain parfait pour les loups. Perrine invoqua mentalement l'image d'un jeune taureau sauvage, doté de cheveux frisés. Ses cornes brillant comme du métal poli au soleil, l'être rayonnait de fierté. Perrine passa le pouce sur le manche de la hache posée à côté de lui, avec son tranchant incurvé et sa pique acérée. Les cornes d'acier du jeune taureau. C'était ainsi que les loups parlaient de lui. Le jeune homme laissa son esprit partir à l'aventure, en voyant l'image dans la nuit. Il devait y avoir des loups, et ils auraient sûrement entendu parler de jeune taureau. L'existence d'un humain capable de parler avec les loups était le genre de nouvelles qui se répandait partout à la vitesse du vent. Dans sa vie, Perrine avait rencontré en tout et pour tout deux hommes comme lui. L'un était un ami, l'autre un pauvre type qui n'avait pas réussi à s'accrocher à son humanité. Les réfugiés qui avaient afflué à Deux-Rivières racontaient volontiers des histoires d'hommes qui se transformaient en loups. Des contes que nul ne croyait vraiment, mais qui servaient à amuser les enfants. Parmi ces gens, cependant, Trois avaient affirmé connaître des hommes qui s'étaient mués en loups et avaient choisi la vie sauvage. Si Perrine avait jugé peu crédibles les détails de ces récits, l'insistance que mettaient deux de ses réfugiés à ne pas croiser ses yeux jaunes lui avait confirmé qu'il ne parlait pas sans savoir. Cette femme du Tarabone et cet homme de la plaine d'Almotte ne seraient pour rien au monde sortis après le coucher du soleil. Pour une raison connue d'eux seuls, ils ne cessaient d'offrir de l'ail au jeune homme, qui s'en régalait, car il adorait ça. En revanche, il renonça à essayer de trouver des gens comme lui. Alors qu'il captait la présence de loups, des noms vinrent à son esprit. Deux lunes, flammes sauvages, vieux cerfs et des dizaines d'autres se bousculèrent dans sa tête. En réalité, il ne s'agissait pas de noms, mais d'un mélange d'images et de sensations. Jeune taureau était une manière très simple de nommer un loup. Deux lunes était en fait une étendue d'eau enveloppée d'obscurité, aussi lisse que de la glace, jusqu'à l'instant où le vent soufflait par une nuit piquante d'automne, et dans laquelle se reflétait l'astre nocturne qui brillait dans le ciel. Deux images si parfaites et si semblables qu'il était difficile de dire laquelle était vraie. Tout ça dans un simple nom. Pendant un temps, il n'y eut que l'échange des noms et des odeurs. Puis Perrine pensa
« Je cherche des gens qui se trouvent devant moi. Des Aes Sedai et des hommes, avec des chevaux et des chariots. »
Bien entendu, exactement comme le nom « Deux Lunes » pouvait se réduire à ce qu'il semblait signifier, la pensée de Perrine fut bien plus complexe que ça, et plus imagée. Les humains devenaient des deux pattes, par exemple, et les chevaux des quatre pattes aux pieds durs. Quant aux Aes Sedai, elles étaient des deux pattes femelles capables de toucher le vent qui fait bouger le soleil et d'invoquer le feu. Détestant le feu, les loups se méfiaient des sœurs encore plus que des autres humains. Du coup, ils estimaient surprenant que jeune taureau ne soit pas en mesure de détecter des Aes Sedai. En réalité, Perrine avait appris par hasard que les loups avaient ce don. Pour eux, cette aptitude était aussi naturelle que, pour lui, celle de voir un cheval blanc parmi un groupe de talons noirs. Bref, rien dont ils aient à se vanter, ni qu'ils sachent expliquer clairement d'ailleurs. Dans la tête de Perrine, le ciel nocturne parut tourner comme une toupie, avant de surplomber un camp où s'alignaient des tentes et des feux de camp à côté d'une série de chariots. La représentation n'était guère précise. Les loups s'intéressant peu à tout ce qui était lié aux humains, les chariots et les tentes avaient des formes assez peu réalistes. En revanche, les feux de camp rugissaient comme des félins et les chevaux avaient l'air appétissants. De plus, avant d'atteindre Perrine, ces images étaient transmises via une multitude d'esprits de loups. Le camp était plus grand que Perrine l'aurait cru, mais la louve, flamme sauvage, se montra affirmative. En ce moment même, sa meute était en train de contourner l'endroit où campaient les deux pattes femelles capables de toucher le vent qui fait bouger le soleil et d'invoquer le feu. Perrine tenta de demander combien il y avait de gens, mais les loups ignoraient jusqu'à la notion de chiffre. En montrant ce qu'ils voyaient, ils pensaient en avoir fait assez. Et de toute façon, Flamme Sauvage et sa meute, après avoir senti les Aes Sedai, ne s'en seraient approchés sous aucun prétexte.
« À quelle distance ?»
Cette question-là reçut une réponse, une fois encore transmise de loup en loup. Bien entendu, il convenait de l'interpréter. Flamme Sauvage indiqua qu'elle pouvait marcher jusqu'à la colline où un vieux mâle agressif nommé Demi-Queue et sa meute festoyaient sur la carcasse d'un cerf, et ce pendant que la lune parcourait dans le ciel et selon un angle précis, une distance donnée. S'il voulait rejoindre Né de Lapin, apparemment un jeune mâle très féroce, Demi-Queue devrait couvrir la même distance, mais selon un angle différent. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit atteinte la position de deux lunes.